Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. » Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. La semaine dernière, Jésus enseignait sur la prière déjà. Il nous enseignait à prier avec foi et persévérance. Aujourd'hui, cette parabole va nous faire aller plus loin et nous faire comprendre quelque chose de capital. La prière est un dialogue avec le Seigneur. La prière est un colloque, un cri vers Dieu. C'est une parabole, alors il faut faire attention parce que une parabole veut dire qu'il y a des choses qui sont semblables, mais des choses qui ne sont pas semblables. Et en particulier, il faut faire attention que tous les pharisiens ne sont pas comme ce pharisien de la parabole. Nicodème, par exemple, est un saint pharisien. Le pharisien n'est pas équivalent à pécheur. Et tous les publicains ne sont pas comme le publicain de cette parabole. Il y a des publicains qui ne se convertissent pas. Il y a des publicains qui ne demandent pas pardon. Cet enseignement est à l'adresse, dit Jésus, de ceux qui se croient justes, de ceux qui se croient meilleurs que les autres. Alors il faut regarder le pharisien, la prière du pharisien. Il se tenait debout et priait en lui-même. Priait en lui-même, il est centré sur lui-même. En réalité, il est enfermé sur lui-même. Et on pourra même aller jusqu'à dire « le pharisien ne prie pas ». Il fait le compte de ses qualités, il fait le compte de ses bonnes actions. Il fait le compte de ce qu'il a fait de bien. Il se justifie. Parce qu'en réalité, plus encore qu'orgueilleux, bien sûr il est orgueilleux, bien sûr il est vaniteux, mais plus profondément, il a peur de Dieu. Il a peur de Dieu et il se justifie aux yeux de Dieu. C'est un plaidoyer qu'il est en train de faire. Il croit connaître Dieu, mais en réalité, il ne l'a jamais rencontré. Il ne lui a jamais parlé, il n'a jamais entendu Dieu. Son Dieu, le Dieu qu'il croit prier, n'est pas le Dieu des vivants, il est le Dieu des morts. Il est le Dieu précisément que Satan voudrait nous faire connaître. Le Dieu qui est une illusion, que Satan voudrait nous convaincre que c'est le bon. Il est le Dieu des morts, il est le Dieu spectateur, il est le Dieu qui juge de haut, il est le Dieu qui demande des comptes, il est le Dieu impitoyable. Alors ce pharisien se protège parce qu'il est anxieux. Il fait les choses bien, non pas pour aimer, non pas parce qu'il aime, Il fait les choses bien pour recevoir une récompense. Il fait les choses bien pour éviter le jugement négatif de Dieu. Il se protège. Et ce faisant, en réalité, il stérilise la grâce. C'est-à-dire, il rend la grâce inopérante. Il fait tout ce qu'il faut pour ne pas avoir à demander pardon. Je fais tout bien. Je suis en règle. On voit de temps en temps comme ça des gens qui nous disent « Oh, bon, je ne suis pas parfait, mais quand même, le bon Dieu ne peut pas m'en vouloir. Je ne suis pas parfait, mais globalement, je suis en règle avec le Seigneur. Mais comment peut-on être en règle avec Dieu? Comment peut-on être en règle dans l'amour? Comment dans l'amour peut-on dire « Ça y est, maintenant c'est bon, j'aime assez, je suis en règle. » Mais dans l'amour, si c'est vraiment l'amour, on est toujours débiteur. On est toujours en manque, on est toujours en demande, on est toujours en progression. C'est embêtant parce que lui tombe une tuile sur la tête, qu'il vienne à tomber dans un piège, qu'il vienne à faire une bêtise importante, alors Dieu le mettra en accusation. Le Dieu auquel il croit, le Dieu qu'il croit connaître, c'est un Dieu qui l'accusera, et qui l'accusera de façon radicale, de façon définitive. Alors pour se protéger, il a besoin de trouver des coupables, plus coupables que lui. Et donc il se compare aux autres. Quand on regarde le publicain, par exemple, celui-là, il désigne le publicain. Lui, je comprends qu'il ait un châtiment. Lui, je comprends qu'il mérite ce qu'il a. Qu'il mérite le jugement sévère de Dieu. Mais moi, je jeûne 2 fois par semaine, alors qu'en réalité, le jeûne n'est demandé qu'une fois par an. Je donne le 10e de ma fortune pour les pauvres, alors que la loi n'a jamais demandé autant. Pourquoi fait-il tout cela? Pour se protéger. Le publicain, pour lui, est devenu un paratonnerre. Si le jugement de Dieu tombe, il tombera sur eux et non pas sur moi. Le publicain est le coupable idéal, pourvu que le reproche ne tombe pas sur lui. Quand je me confesse de temps en temps, je suis tenté de me justifier de cette manière. Oui, j'ai fait ça, je reconnais, c'est vrai. Mais, c'était pas tout à fait de ma faute, parce que, et puis il faut voir aussi tout ce que j'ai fait de bien quand même. Pourquoi se justifier? Est-ce que Dieu a besoin qu'on se justifie? Est-ce que Dieu m'aimera plus parce que je fais mieux? Est-ce que Dieu m'aimera moins parce que je fais plus mal? Non. Dieu est amour. Dieu m'aime tout court. Dieu ne m'aime pas malgré mes fautes et ma faiblesse. Dieu m'aime, point. D'un amour infini. D'un amour total. Et Dieu ne peut pas reprendre sa parole, sinon il n'est pas Dieu. Encore un peu, et ce pharisien serait comme Judas, pris la main dans le sac, à faire une trahison, à faire un péché terrible. Alors il ira se pendre comme Judas, parce qu'il ne sera plus digne de ce Dieu auquel il croit, de ce Dieu qu'il croit connaître. Il ne sera plus digne de vivre. Satan veut notre mort. Et Satan sait bien qu'il ne peut pas changer Dieu, mais Satan sait qu'il peut nous influencer et nous faire adhérer à un faux Dieu. En réalité, Satan peut jouer sur notre affectif, Satan peut jouer sur notre conscience en faussant notre regard, et surtout notre regard sur Dieu. Satan veut que nous ayons peur de Dieu. Peut-être que c'est la chose la pire. Pourquoi avoir peur de Dieu ? Parce que nous ne sommes pas dignes. Mais c'est précisément pour cela que Dieu est venu. C'est précisément pour cela que Dieu, qui a tellement aimé le monde, a envoyé son Fils dans le monde, pour nous manifester que sa miséricorde est au-delà de tout, que sa miséricorde vient à bout de tout. Nos péchés pourraient être comme l'écarlate, ils deviendront comme la neige. Je pourrais être le plus grand des pécheurs. C'est un prêtre que j'aimais beaucoup qui m'avait dit ça un jour. Entre le plus grand des pécheurs et le plus grand des saints par rapport à Dieu. C'est un peu comme la butte Montmartre et l'Everest par rapport au soleil. Vu du soleil, la différence entre la butte Montmartre et l'Everest, c'est pas terrible. Comment est-ce qu'on peut avoir peur de Dieu ? Parce qu'on se regarde soi-même et qu'on se juge soi-même et qu'on projette sur Dieu le jugement qu'on a sur soi-même. Le publicain, lui, est exactement à l'opposé. Il a conscience d'être pécheur, mais il n'est pas enfermé sur lui-même. Il s'adresse à Dieu, sans oser lever la tête, mais il s'adresse à Dieu. Il demande pitié. Et en s'ouvrant, en avouant son péché, il s'ouvre à la grâce. Il découvre la miséricorde et se livre à la miséricorde. Ce sera exactement l'attitude du bon larron, canonisé dans la seconde, au moment même de mourir, parce qu'il ouvre son cœur, qu'il craque, qu'il avoue son péché, il découvre en même temps l'infini de la miséricorde du Seigneur. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Pour recevoir la miséricorde de Dieu, il faut être pauvre. Il faut avoir découvert, il faut avoir expérimenté sa pauvreté. Pauvreté radicale, par le péché, mais aussi peut-être par cette incapacité de prier. Il arrive des jours où on se rend compte qu'on est incapable de prier, que notre prière est sèche, que notre prière nous semble vaine. Nous sommes tellement pauvres en réalité, mais cette expérience précisément nous fait mesurer la miséricorde de Dieu qui nous accueille. Plus encore que le bon larron, c'est Jésus lui-même qui s'ouvre à la miséricorde du Père. Jésus qui est le pécheur universel, Jésus qui a été identifié au péché, c'est lui qui assume et qui demande pardon pour moi. C'est lui qui demande pardon à son Père dans une totale confiance, dans un abandon absolu. Son angoisse n'est pas l'angoisse de ne pas être aimé. Son angoisse, c'est l'angoisse du pécheur. Du pécheur qui prend conscience que ce péché est une immense offense à l'amour de Dieu. Mais il sait que l'amour de Dieu est plus grand. Jésus descend dans l'abîme de la peine du pécheur. Prenez cet époux qui aime son épouse et qui a fait une énorme bêtise. Peut-être même a-t-il trahi sa femme qu'il aime. Il est malheureux, cet époux. Ça peut se prendre dans les deux sens, c'est réciproque, bien sûr. Cet époux est terriblement malheureux. Comment puis-je dire aujourd'hui que j'aime ma femme alors que je viens de faire ce que j'ai fait ? Sa peine, son angoisse n'est pas d'être pécheur, il le savait. Son angoisse est d'avoir fait mal à son épouse qu'il aime. Il n'a qu'une seule chose à faire, c'est se jeter dans l'amour, se jeter dans la miséricorde de Dieu et aussi la miséricorde de son épouse parce qu'il en est sûr, parce qu'il est sûr de cette épouse. Jésus descend dans l'abîme de la peine du pécheur. Jésus descend donc aussi dans l'abîme de la peine de ce pharisien. Parce que Jésus aime ce pharisien. Le pharisien, lui, croit qu'il est jugé, alors que Dieu l'aime. Je le dis et je le répète, et je me le répète à moi-même, Jésus n'a pas moins aimé le mauvais larron que le bon. Il les aime tous les deux d'un amour égal. L'un s'est ouvert, l'autre s'est fermé, mais ce n'est pas la faute de Dieu. Vas-tu t'ouvrir, toi, à la miséricorde du Seigneur ? Je m'abandonne à la Vierge Marie. C'est elle qui nous aime. C'est elle qui nous apprend à nous approcher de Dieu avec confiance. Elle est le refuge des pécheurs. La conversion du bon larron fait sa joie. Au moins mon fils n'est pas mort pour rien. Mon fils n'est pas mort pour rien parce que le bon larron s'est ouvert à la miséricorde. La dernière peine de Marie, c'est de voir le mauvais larron qui lui s'est fermé parce qu'il avait peur. Il était angoissé. La joie de Marie, c'est la joie de l'Église. La joie de l'Église qui n'a pas besoin de pur. Aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, comment prétendre encore que l'Église est pure ? Comment prétendre encore que l'Église est faite de saints ? L'Église est faite de pécheurs. Et ce péché nous saute à la figure. Le nôtre est celui de ses membres et celui de ses responsables. Le monde n'a pas besoin d'une église de pure. Le monde a besoin d'une église de pécheurs qui se repentent, d'humbles pénitents qui sont sauvés. Je ne vais pas faire croire à mes collègues de travail ou à ma famille ou à mes amis. Je ne vais pas leur faire croire que je suis parfait. Pour peu qu'ils me connaissent d'un peu près, ils verront bien que je ne le suis pas. Mais je pourrai leur montrer la confiance que j'ai dans la miséricorde. Je pourrai leur montrer ce que c'est que la joie du pécheur pardonné. La joie incomparable qu'il y a à être aimé. Peut-être que c'est ça la mission. La miséricorde nous fait missionnaires, parce que la miséricorde, quand on la reçoit, on la témoigne. On en témoigne en étant vivant alors qu'on était mort. Ton fils, ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Ne fallait-il pas festoyer et se réjouir? Un seul pécheur qui se repent fait la joie du ciel, fait la joie des anges, fait la joie de Dieu. Aujourd'hui, tous, dans ce sacrifice eucharistique, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs, mais reconnaissons humblement que nous sommes encore plus aimés que nous ne sommes pécheurs. Alors en venant communier tout à l'heure, en recevant le corps du Christ, disons un Amen qui soit un Amen de petit enfant, un Amen joyeux dans les larmes de la douleur du pécheur repenti qui découvre combien Dieu nous aime. Amen.